le 6-9 du week-end sur France Inter.
C'est l'heure de penser donc. Bonjour Laurence Luret.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Et si on pensait autrement, si nous sortions de nos cadres de pensée habituels, eh bien c'est le pari de votre invité Laurence, l'économiste Thomas Porcher.
Bonjour Thomas Porcher.
Bonjour.
Nous sommes dans un cadre de pensée qui nous empêche d'inventer d'autres solutions. Il y a un discours économique qui a gagné, dites-vous. Certains prix Nobel le disent aussi. Il nous faut penser autrement l'économie, selon vous. Vous avez d'ailleurs écrit ce livre, Traité d'économie hérétique, c'est son titre, pour, je vous cite, « réarmer les citoyens », c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous présente des solutions, on vous présente un cadre de pensée avec tout autour de ce cadre des limites qui sont des épouvantails, comme par exemple la dette, la mondialisation, et on vous dit qu'au final, il n'y a qu'une seule solution ou des possibilités qui sont extrêmement limitées. Donc on vous oblige à accepter des choses qui sont difficiles à accepter. Par exemple, on vous dit que vous allez devoir travailler trop longtemps, que vous allez devoir vous passer d'hôpitaux de qualité, qu'on ne pourra plus investir dans les écoles et ainsi de suite, parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. En réalité, c'est faux, et ce cadre de fonctionnement de l'économie, il peut évoluer, il peut changer, et même il a changé selon les périodes.
Alors, on va y revenir, mais d'abord un mot sur l'actualité, la grève à la SNCF, contre notamment la réforme du statut des cheminots. Ils ont raison ou ils font partie du vieux monde, les cheminots ?
Non, je pense qu'ils ont raison parce que vous regardez aujourd'hui, des pays ont ouvert à la concurrence le secteur du rail, du ferroviaire, et les résultats n'ont pas été toujours bons. L'Allemagne est un peu mieux classée que la France dans les résultats, hein, dans les enquêtes d'opinion et d'efficacité du secteur du rail, mais l'Angleterre est beaucoup moins bien classée. Et le premier pays qui est le plus efficace sur le rail, c'est la Suisse, qui a une compagnie publique. Donc rien n'assure qu'en libéralisant, on aura forcément des meilleurs résultats. Et pourtant, c'est la seule voie que l'on nous propose. Plutôt que de faire de la SNCF, par exemple, un vecteur de la transition écologique pour utiliser moins la route ou un vecteur de la cohésion des territoires.
Mais Thomas Porcher, il faut bien adapter la SNCF et la préparer à la concurrence, c'est une décision européenne.
Oui, mais vous savez, la France, elle pèse quand même beaucoup dans l'Europe, hein, c'est la deuxième puissance, et elle peut, si elle veut, ne pas appliquer tous les traités, ou au moins changer ou réorienter en débattant une partie de ce qui a été fait à la Commission européenne. Mais c'est vrai que quand vous avez des gouvernants et en même temps des commissaires européens qui sortent des mêmes écoles, qui ont la même façon de penser, vous êtes sûr que la France va appliquer. Et elle applique même si les résultats au bout ne sont pas garantis. Et aujourd'hui, si on libéralise, je ne vois pas pourquoi des lignes qui ne sont pas rentables, le secteur privé irait investir dans ces lignes-là, puisqu'elles ne sont pas rentables et déjà la SNCF les laisse de côté.
Alors Thomas Porcher, vous tordez le cou à ce que vous appelez des idées reçues, la dette publique qui serait un danger, la France qui serait irréformable, notre modèle social inefficace. Alors si on prend par exemple la dette, près de 100% de notre PIB, en comparaison de l'Allemagne, qui a une dette publique de 65% à peu près, c'est un problème, non ?
Mais non, vous voyez, parce que la dette, ce n'est pas un problème en soi, en fait. Parce que vous avez une dette, mais vous avez aussi un patrimoine public. C'est-à-dire des bâtiments, des choses qui appartiennent à l'État. Et aujourd'hui, notre patrimoine public couvre entièrement notre dette. Ça ne veut pas dire que si on a des problèmes avec notre dette, on doit revendre tous nos ponts, etc. Mais ça veut dire que notre dette est soutenable parce que nous avons ce patrimoine public. L'Allemagne a 65% de dette, mais elle a juste un patrimoine public au même niveau. Donc, ce qui est très grave aujourd'hui et ce qui se joue, c'est qu'en bradant les aéroports de Paris, en vendant ce qui appartient à l'État, on va avoir un patrimoine public qui sera en dessous de la dette. Et c'est là que ça peut être très dangereux parce que les marchés financiers voudront plus nous prêter à des taux d'intérêt faibles.
Bon, alors je vais me faire l'avocat du diable, Thomas Porcher. On va vous dire que quand même, toutes les démocraties occidentales appliquent à peu près la même économie, dette, déficit, mondialisation. Est-ce que c'est pas finalement la meilleure solution ou la moins mauvaise des solutions ?
Ben écoutez, on ne l'a pas toujours appliqué de cette façon-là. Dans les 30 Glorieuses, on avait une économie très administrée, on avait un secteur public qu'on voulait fort. On n'a pas toujours appliqué ces méthodes-là. On les applique depuis les années 80, avec le tournant qu'on appelle de Reagan et de Thatcher. Alors, tirons les conclusions. Reagan était américain, Thatcher anglaise. Quelle a été la conséquence de 30 ans d'application de politique libérale dans ces pays-là ? Le vote de Trump par les classes qui n'ont pas profité de la mondialisation, justement, les plus pauvres, et le Brexit. Et aujourd'hui, on nous dit, nous, qui n'avons pas mis un extrême au pouvoir, Marine Le Pen, mais Emmanuel Macron, on nous dit qu'il faut aller encore plus loin pour peut-être que dans la prochaine élection ou dans celle d'après, eh ben on fasse monter les extrêmes et qu'on vote des politiques qui sont très dures, comme ça a été le cas aux États-Unis, comme ça a été le cas au Royaume-Uni. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'on tire un bilan de cette aventure et puis qu'on infléchisse les politiques vers quelque chose de plus redistributif et de plus social, parce que la libéralisation a mis des extrêmes au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Alors vous expliquez également dans votre livre que de 1900 à 1930, on a appliqué des politiques très libérales et puis ensuite, ça s'est renversé. Comment expliquez-vous ce retournement ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tout le monde est d'accord pour appliquer totalement autre chose, même l'inverse qui, évidemment, faisait peur à tout le monde avant, où on disait « c'est pas possible ».
Exactement. Alors ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de rappeler qu'on n'a pas toujours appliqué les mêmes fonctionnements, les mêmes modes de régulation de l'économie. 1900-1930, c'était plutôt libéral. Puis 1950-1970, c'était plutôt très administré, très service public, très redistributif. Et 1980 aujourd'hui, on tend plutôt vers le libéralisme. Quand vous regardez, en fait, chaque fois les modes de régulation ont changé quand il y a eu une crise. Crise de 29, ça change, on passe à un régime administré. Crise des années 70, pétrolier, on passe au régime libéral. Et là, nous, on a eu la crise de 2008, qui est quand même la crise du capitalisme libéral, qui vient des États-Unis. Eh bien, on n'a pas changé. On a été encore plus loin dans la logique libérale, avec l'austérité en Europe, etc. Et c'est ça le vrai problème, moi, je trouve. C'est que si aujourd'hui, on vous dit qu'il peut y avoir une alternance politique, mais sans alternative économique, ben, il y a un vrai problème démocratique. Et aujourd'hui, on essaye de nous dire qu'en économie, il y a des vérités, donc il n'y a pas d'alternative économique. Et le livre, c'est le but de ce livre, c'est de réarmer justement ce citoyen pour qu'il pèse dans le rapport de force, qu'il pèse dans le débat, pour qu'il dise aux politiques que s'il y a des alternatives possibles et qu'il faut traiter aujourd'hui les points de vue économiques sur un pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui a raison plus que l'autre. Qu'on vous dise pas, ce programme-là, il est sérieux parce que c'est un programme d'économie et que Emmanuel Macron l'a fait. Le programme de Fillon est encore plus sérieux, mais il est trop dur, donc on ne va pas le choisir. Et le programme de Hamon et de Mélenchon sont utopistes, donc on n'en discute même pas. Non, on discute de tous ces programmes sur un pied d'égalité parce que chacun de ces programmes ont été soutenus par des économistes très brillants.
Merci Thomas Porcher. Je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre. Et bien sûr, pour celles et ceux qui nous rejoignent, pensez donc, c'est aussi en réécoute et en podcast sur notre site Eric.
Et merci Laurence Luret. Et je rappelle donc le titre de votre du livre de votre invité, Thomas Porcher. Ça s'appelle « Traité d'économie hérétique » et c'est aux éditions Fayard. Donc, merci Laurence.